VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Bamako, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. On commence par la RDC, c'est le 11 mars que la dépouille mortelle de l'opposant historique Étienne Tshisekedi va être rapatriée à Kinshasa, la capitale. La famille du disparu en a fait l'annonce à Bruxelles en Belgique, où le corps est gardé depuis son décès le 1er février. Eddy Sango a joint à Bruxelles l'abbé Théodore Chilumba, secrétaire particulier d'Étienne Tshisekedi.
La date qui est retenue jusque-là est celle du 11 mars 2017. Et je confirme, Monseigneur Gérard Moulumba Kalemba a fait un communiqué de presse. J'étais à ses côtés au sujet des obsèques du président Étienne Tshisekedi wa Moulumba. Le communiqué est très clair là-dessus. Hein. C'est après concertation des deux familles, biologiques et politiques, et de presse, qu'on a pris cette décision-là. Les conditions ont été posées. Les autorités de Kinshasa ont proposé un endroit. Donc après concertation, les deux familles ont trouvé que dans un premier temps, on peut inhumer le corps du président Tshisekedi à la Gombe, mais après, on trouvera un autre endroit où sera érigé un mausolée.
Et qu'en est-il de la nomination du Premier ministre que sa famille politique exigeait?
Les démarches sont là. On sait que ça va venir parce que le président lui-même avait déjà présenté le Premier ministre conformément à l'accord du 31 décembre 2016.
La dépouille de M. Étienne Tshisekedi est restée à Bruxelles, entre autres aussi, pour l'autopsie. Qu'en est-il?
Les avocats qui ont les dossiers font leur travail et après, je vous dirai quoi.
L'abbé Théodore Chilumba, secrétaire particulier d'Étienne Tshisekedi à Bruxelles, en Belgique. Au Gabon, fin des préparatifs du dialogue politique voulu par le président Ali Bongo Ondimba. Réunis depuis une quinzaine de jours, la majorité et une partie de l'opposition bouclent les travaux d'un comité préparatoire paritaire pour organiser le dialogue inclusif et sans tabou que souhaite l'exécutif 6 mois après les violences qui ont suivi le scrutin présidentiel du 27 août. La coalition pour la Nouvelle République CNR de l'opposant Jean Ping et ses partisans n'ont participé ni de près ni de loin à ces travaux préparatoires, a indiqué à l'AFP le porte-parole Jean-Gaspard Ntoutoum. Au Tchad, 69 étudiants condamnés mardi à un mois de prison ferme pour outrage à l'autorité de l'État après avoir perturbé une visite ministérielle alors que les universités s'insurgent contre la suppression des bourses. Les étudiants de l'Union des étudiants tchadiens, UNET, ont également été condamnés à 50 000 francs CFA d'amende par personne. 3 étudiants ont été relaxés au bénéfice du doute par le tribunal de N'Djamena. Aussitôt le verdict tombé, les prévenus condamnés à la prison ont été transférés à la maison d'arrêt de la capitale tchadienne. Afrique de l'Ouest, en Gambie, les députés ont adopté mardi une loi éliminant de la Constitution la limite d'âge de 65 ans pour les candidats à l'élection présidentielle. Cette limite d'âge, également valable pour les candidats au poste de vice-président, avait été fixée après révision de la Constitution entrée en vigueur en 1997. Sa suppression intervient après la contestation fin janvier de la nomination par le président Adama Barrow de Mme Fatoumata Diallo Tamba Jang, 68 ans, comme vice-présidente, soit 3 ans de plus que l'âge limite. Mali, dans le nord du pays, l'autorité intérimaire de la région de Kidal, fief de la CMA, l'ex-rébellion à dominant Touareg, a finalement été installée hier après plusieurs reports. Les détails avec Jacques Aristide.
À Kidal, le président du conseil régional, Hassan Ag Fagaga, a reçu hier les symboles de l'État lors d'une cérémonie sous haute surveillance des forces de l'ONU et de l'opération française Barkhane. Les différentes autorités devaient initialement être installées à partir du 18 février, mais plusieurs groupes avaient contesté certains choix et le gouvernement de Bamako, par souci d'apaisement, avait reporté les cérémonies. Maintenant, les dirigeants provisoires des 4 autres régions administratives seront installés jeudi à Gao et Menaka et vendredi à Tombouctou et Taoudeni. En vertu de l'accord de paix de 2015, ces autorités intérimaires devront gérer les 5 régions du Nord malien en attendant l'élection par la population d'assemblées dotées de pouvoirs importants. Ces nouvelles autorités devront préparer ces élections et favoriser le retour à des déplacés du conflit politico-militaire dont le Mali tente de se relever depuis 2012.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Actualité aux États-Unis maintenant. Le président Donald Trump s'est adressé hier à Washington aux deux chambres réunies du Congrès américain. Loin de la tonalité de son discours d'investiture, le 45e président des États-Unis a décliné ses priorités pour donner corps à un engagement central, donner la priorité aux Américains. Pour une analyse du discours de M. Trump, Idrissa Sedoudi a contacté Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines.
Il a parlé de tous les sujets brûlants pour les Américains, de tout ce qu'il a promis, et il a dit « je vais continuer à appliquer mes promis ». Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il est un président républicain avec beaucoup d'idées démocrates. Par exemple, il veut dépenser beaucoup d'argent pour réparer notre infrastructure. Ça, c'est une politique plutôt démocrate que républicaine. Il a parlé d'aide maternelle pour aider les mères avec les petits-enfants. Ça, c'est une politique démocrate et pas républicaine. Il veut réformer le système d'assurance santé. Et il a dit, nous devons réduire le prix des médicaments. Ça, c'est une politique démocrate. Parce que président Obama a voulu négocier les prix de médicaments parce que c'est le gouvernement américain qui est le plus grand acheteur. Et les républicains ont refusé.
Mais il veut se débarrasser de Obamacare, le programme d'assurance maladie de M. Obama.
Oui, il veut se débarrasser, mais il veut aussi le remplacer. Il a dit qu'il faut une assurance santé pour tout le monde qui est abordable et avec tout le monde qui est couvert. C'est-à-dire, si vous avez déjà une maladie, une société d'assurance ne peut pas refuser. Ça, c'était la politique d'Obama. Donc, je crois qu'il est en face d'un problème avec ses propres républicains qui veulent beaucoup moins que lui dans beaucoup de sujets. Donc, à mon avis, c'était un très bon discours parce qu'il cherche à aider le petit Américain, l'ouvrier américain, celui qui n'a pas avancé dans son éducation après l'école secondaire ou même qui n'a même pas eu une éducation secondaire.
Alors, sur le plan extérieur, comment voyez-vous ses positions sur les relations de l'Amérique avec le monde extérieur? Il a dit qu'il a été élu pour défendre les intérêts de l'Amérique d'abord.
Oui, bien sûr, comme tous les présidents des États-Unis ont toujours eu une politique de défendre l'Amérique d'abord. Il n'a pas inventé ça, mais c'est le premier président depuis la Deuxième Guerre mondiale qui parle de ça comme une grande politique. Ça fait peur aux autres pays, surtout nos alliés. Mais je suis content qu'il a dit à nos alliés dans l'OTAN, nous sommes avec vous toujours, mais il fallait quand même enfoncer le clou, me dire que vous ne dépensez pas assez pour la défense. C'était pas nécessaire de dire ça. Je crois que nos amis en Europe, au Moyen-Orient, commencent à penser qu'il n'est pas sérieux pour être un vrai allié. Mais à part ça, je crois que c'était un bon discours. Nous sommes des leaders dans le monde. Nous allons défendre la démocratie, etc. Nous allons lutter contre le terrorisme. C'était pas un grand changement d'Obama.
Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines. Pour terminer, conflit en Syrie, la Russie et la Chine ont bloqué hier des sanctions contre la Syrie pour son utilisation d'armes chimiques. Le premier grand désaccord entre Washington et Moscou au Conseil de sécurité de l'ONU depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, John Lindon.
Vladimir Poutine l'avait encore martelé quelques heures avant le vote. Imposer des sanctions n'aiderait pas le processus de négociation pour la paix en Syrie. Le président russe a qualifié d'éventuelles mesures contre le pouvoir syrien d'inopportunes dans le contexte des pourparlers laborieux menés à Genève sous l'égide de l'ONU. Cette résolution est très opportune. C'est un triste jour pour le Conseil de sécurité, a retorqué l'ambassadrice américaine auprès des Nations Unies, Nikki Haley, devant les membres du Conseil. Les États-Unis et la Russie sont chacun impliqués sur le terrain en Syrie. Washington à la tête d'une coalition internationale luttant contre le groupe djihadiste État islamique et la Russie en soutien de son allié Bachar al-Assad. Bachar al-Assad, dont le pays nie avoir utilisé des armes chimiques dans ce conflit qui a fait plus de 310 000 morts depuis 2011.
Merci de votre attention.
Au cœur de l'info sur VOA Afrique.